Bonjour à vous toutes et tous. Bienvenue dans Tango Passion Tango. Cette émission vous est proposée par l'association Tango Argentin Volvestre, association qui organise des cours de tango argentin tous les jeudis à 19h à la salle polyvalente de Rieux-Volvestre.
Bonjour, je suis Dominique de l'association Tango Argentin Volvestre. Bienvenue dans Tango Passion Tango. Tourmenté, éternel insatisfait, impulsif, caractériel, obstiné, irrévérencieux, tiraillé, décalé, mais pour sûr passionné et rebelle. De quelle grande figure du tango peut-on bien parler en ces termes ? D'Astor Piazzolla, bien sûr. Et vous allez voir que tout n'a pas toujours été simple pour lui. Il est né dans une famille d'émigrés italiens en 1921 à Mar del Plata. Peu de temps après, ses parents partent vivre à New York pour quelques années. C'est un gamin turbulent qui court les rues de New York, fait quelques petits larcins, se fait renvoyer de l'école. À l'âge de 8 ans, son père, qui n'écoute que du tango, lui offre un bandoneon. Mais il aurait bien préféré un saxophone. Parce que dans les rues de New York, dans les années 30, c'est le jazz qu'on entend. Et lui, il aime le jazz. Mais il découvre aussi la musique de Jean-Sébastien Bach, grâce à un voisin, Bella Vilda. C'est un musicien hongrois qui fut élève de Rachmaninov. Et la musique de Bach, ça bouleverse le petit Astor. Alors, avec Bella Vilda, il va jouer des transcriptions de Bach sur son bandoneon, ce qui va lui permettre de maîtriser l'instrument et d'acquérir de bonnes bases de musique classique. Pour se faire quelques sous, il joue volontiers du bandoneon dans des petits groupes avec ses copains et il participe aussi à des concours. C'est ainsi qu'en 1935, à New York, il croise le grand Carlos Gardel. Gardel détecte chez lui un talent certain pour le bandoneon. Et lui propose même de l'accompagner en tournée en Amérique du Sud. Mais le père d'Astor va s'y opposer, parce que son fils n'a quand même que 14 ans. Et quelques semaines plus tard, l'avion de Carlos Gardel s'écrase en Colombie et il n'y aura aucun survivant. En 1937, Astor découvre le pianiste Elvino Vardaro, qui interprète du tango de façon complètement nouvelle pour lui. Il s'enflamme. Et il veut devenir musicien professionnel. Alors, il s'installe à Buenos Aires en 1938. Il a alors 17 ans. À Buenos Aires, parmi la multitude d'orchestres de tango, et on en compte environ 600 à cette époque, celui d'Anibal Troilo est très connu. Il fait toujours salle comble. Un soir, un des bandoneonistes de l'orchestre est malade. Et Astor Piazzolla se propose spontanément pour le remplacer. Il connaît le répertoire par cœur. Et il réussit sa prestation en jouant de la main gauche la partition écrite pour la main droite. Il se fait embaucher immédiatement par Troilo en tant que bandoneoniste et arrangeur. Mais Troilo trouve que Astor Piazzolla met beaucoup trop de notes sur sa musique et que ses arrangements sont un peu trop débridés. Les remarques répétées de Troilo font naître peu à peu une véritable frustration chez Astor Piazzolla qui aspire à plus de liberté et de créativité dans la composition. Je vous fais écouter Paralu Circe, qui est le premier tango qui a vraiment fait polémique entre Troilo et Piazzolla.
Thank you.
Astor est toujours tiraillé entre jazz, musique classique et tango. C'est difficile de marier tout ça. Alors il commence des études de piano et de composition avec le compositeur Alberto Ginastera. Puis il quitte l'orchestre de Troilo et fonde son premier orchestre où il compte bien s'exprimer librement, jouer sa propre musique inspirée de Bartok, Stravinsky ou Bach. La base de sa musique, c'est quand même du tango. Il y introduit des contrepoints, des fugues, des harmonies dissonantes. En fait, il déconstruit complètement la structure habituelle du tango. Et ça, ça ne plaît pas du tout aux puristes du tango, public et tanguero traditionnel, qui vont le dénigrer et le critiquer tant et plus. Il faut dire que dans les années 40, c'est l'apogée, l'âge d'or du tango en Argentine. Et le tango est même érigé en pilier de l'identité et du patrimoine national par le président nationaliste Juan Perón. Donc, pas question de laisser le tango traditionnel et ses valeurs populaires en proie aux influences américaines et européennes. Mais Astor Piazzolla, lui, rêve de faire de la musique savante, noble, une musique sérieuse, jouée par des musiciens de conservatoire pour un public de mélomanes. Il veut sortir le tango des salles de bal et l'amener dans les salles de concert, voire même à l'opéra. Et il veut y mettre les accents de jazz et les nostalgies de musique classique, tout ce qui l'inspire et qu'il aime. Heureusement, il est toujours encouragé par Ginastera et il présente une de ses compositions, Sinfonie à Buenos Aires, à un concours de la Radio del Estado en 1953. À ce concours, il remporte le premier prix de composition Fabien Sevinsky. Et la Sinfonie à Buenos Aires est jouée dans le plus grand amphithéâtre de la ville. C'est enfin une belle reconnaissance pour Piazzolla. Malgré la critique très virulente du public et des passionnés de tango traditionnel, tout comme des adeptes de la musique classique d'ailleurs, qui lui reprochent d'avoir fait entrer cette musique populaire et un bandoneon dans le sanctuaire de la grande musique. Je vous propose un extrait de Sinfonie à Buenos Aires. Qu'il en soit, cette victoire au concours est assortie d'une bourse d'études offerte par le gouvernement français pour venir étudier le piano à Paris avec Nadia Boulanger. Il s'envole donc pour Paris en 1954, il a 33 ans. Nadia Boulanger, c'est un personnage. Elle est professeure de musique, pianiste, organiste, chef de chœur, chef d'orchestre. Elle n'a pas loin de 70 ans et c'est déjà une légende. Elle a beaucoup d'élèves, 1200 au total, paraît-il. Des compositeurs, des chefs d'orchestre et des musiciens, dont certains sont devenus célèbres. On peut citer Aaron Copland, Stravinsky, Philip Glass, Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Quincy Jones et même Michel Legrand plus tard. Un jour, Nadia écoute un exercice symphonique pour piano que Piazzolla a écrit. Et elle lui dit « C'est bien écrit, mais je ne perçois pas votre présence dans cette musique. Où est donc le vrai Piazzolla? Que faites-vous quand vous n'êtes pas ici ?» Astor est un peu honteux d'avouer qu'il fait du tango au bandoneon. Mais elle connaît le bandoneon et elle ne s'offusque pas le moins du monde. Elle lui demande de jouer une de ses compositions de tango et il joue au piano son tango triomphal. Nadia lui prend alors les mains et lui dit « Mais voilà le vrai Piazzolla. Ne l'abandonnez jamais. » Cette phrase, c'est la grande révélation de sa vie, dira-t-il plus tard. Elle l'a convaincu de mettre tout son talent au service du renouveau du bandoneon et du tango, et d'utiliser ses racines et la musique populaire pour créer un genre nouveau, moderne et sophistiqué. Maintenant, il sait où il va. Il a enfin trouvé sa voie, c'est le tango nuevo. Pendant son séjour à Paris, il rencontre Yves Baquet, des éditions universelles qui éditent les partitions de tango. Grâce à lui, il enregistre sous le label Vogue un disque de 8 titres qui sont de magnifiques hommages à Paris et à la France. Pour ce disque, il joue du bandoneon en soliste et il est accompagné des 15 cordes de l'orchestre de l'Opéra de Paris, d'un violon soliste de l'Opéra, d'une harpe, d'un pianiste Grand Prix de Rome. Le disque est intensément diffusé sur toutes les radios nationales françaises. C'est un véritable succès. En 6 mois, Piazzolla est connu dans toute la France, mais même en Allemagne et ailleurs en Europe. Je vous fais écouter un extrait de ce disque, Ciao Paris. Conforté par les conseils de Nadia Boulanger et par son succès en France, Piazzolla rentre en Argentine, bien décidé à y imposer sa musique. Il entreprend de travailler à la modernisation des tangos traditionnels et à la composition d'œuvres pour bandoneon et cordes. Il écrit et enregistre plusieurs œuvres et arrangements d'avant-garde, où il mêle des improvisations de jazz, de la polyrythmie, de la guitare électrique et même de la batterie. Il fonde 2 orchestres, l'Octeto de Buenos Aires, puis en 1960, le Quinteto Nuevo Tango, un orchestre avec lequel il va acquérir une grande renommée internationale. Internationale, oui, car à Buenos Aires, il est encore et toujours très critiqué pour son tango trop moderniste et son style inclassable. Il est peu programmé à la radio et il fait toujours l'objet d'attaques, aussi bien verbales que physiques, de la part de ses détracteurs, qui l'accusent de trahison. Lui voue une haine féroce, provoque des bagarres à l'entrée de ses concerts et profère même des menaces de mort à son encontre. Cet acharnement et cette virulence ne font que renforcer sa détermination, maintenant qu'il a enfin réussi cette magique synthèse entre musique populaire et musique savante. D'ailleurs, il prétend ne pas composer de tango, mais plutôt une musique populaire contemporaine de Buenos Aires. Dès 1963, il entame une collaboration très fructueuse avec les poètes Jorge Luis Borges et Horacio Ferrer, avec lequel il compose une opérette, Maria de Buenos Aires, qui n'aura pas grand succès, mais aussi plusieurs de ses tangos les plus célèbres, parmi lesquels Balada para un loco, la balade pour un fou, ou El tango del alba, le tango de l'aube, qui auront un immense succès. À partir des années 70, Il passe quelque temps aux États-Unis, puis s'installe surtout en Europe, un peu en Italie, mais principalement à Paris. C'est là qu'il trouve vraiment la liberté d'esprit et de création artistique dont il a besoin. C'est là qu'il enchaîne concert sur concert, dont certains sont mémorables. On se souvient par exemple de son improvisation avec le saxophoniste Jerry Mulligan. C'est là aussi qu'il enregistre beaucoup de disques, et notamment son morceau sans doute le plus connu, Libertango, le tango d'un Piazzolla enfin libre. C'est ce tango que vous entendez dans le générique de notre émission. C'est là aussi qu'il va susciter, chez les Argentins exilés en Europe, l'envie de renouer avec le tango comme une forme d'attachement au pays perdu. Écoutons quelques notes de Verano Porteño. Pendant ce temps, en Argentine, grâce à cette notoriété internationale, sa musique commence progressivement à être reconnue. Après 30 ans de dictature, le tango traditionnel est sur le déclin, presque moribond. Piazzolla va lui donner un nouveau souffle. Il influence une nouvelle génération de compositeurs de tango, mais il inspire aussi de nouvelles générations de danseurs, et provoque un regain d'intérêt pour le tango dansé, mais dansé autrement. Grâce à lui, l'Argentine va peu à peu se réapproprier le tango. Cette acceptation tardive lui laisse un peu d'amertume. En 1989, lors d'une conversation avec un journaliste, il déclare que le tango en Argentine est bien plus qu'une tradition. C'est une fondation culturelle immuable. On dit qu'on peut tout changer en Argentine, sauf le tango. Mais lui, il l'a changé. Pas pour des applaudissements, non, il s'en fiche des applaudissements. Mais parce que c'est sa vie, sa conviction profonde, ses tripes. Parce que cette musique révolutionnaire, c'est lui. Lui qui voulait être Bartok ou Stravinsky. Mais lui qui est Piazzolla. Et quand il est victime d'une thrombose cérébrale en août 1990 à Paris, c'est le président argentin Carlos Menem qui organise son rapatriement à Buenos Aires, où il s'éteindra en 1992. L'Argentine aura enfin reconnu son talent, sa musique et son influence indéniable sur le rayonnement du tango de par le monde. Car paradoxalement, la musique de Piazzolla, qu'il voulait avant tout musique de concert, loin des salles de bal, joue un rôle très important, en France d'abord, et partout dans le monde, même au Japon. Piazzolla révolutionne le tango. Il fait de cette musique populaire un art majeur à part entière. Une musique capable d'évoluer et de dialoguer avec d'autres genres musicaux. Une musique moderne, une musique créatrice d'émotions qui vous arrache le cœur et s'accroche à votre esprit comme une obsession. Une musique qui donne envie de danser différemment. En modernisant la musique tango, Piazzolla a donc aussi provoqué la modernisation de la danse tango, qui est devenue plus souple, plus dynamique, plus créative et qui a séduit des générations de jeunes danseurs partout dans le monde. Artiste de génie, auteur de plus de 800 compositions, bandoneoniste virtuose, Piazzolla est reconnu comme un des plus grands compositeurs de tango du XXe siècle. Il est un des plus joués dans le monde entier. Il est le représentant du tango moderne. C'est une belle revanche, n'est-ce pas? Et c'est grâce à lui que le tango perdure encore aujourd'hui, si vivant et si universellement dansé. Écoutons quelques notes de Libertango. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous souhaitez apprendre le tango argentin à Rieux-Volvestre, les cours reprennent le jeudi 11 septembre à 19h à la salle polyvalente avec notre professeur argentine, Marcela Barrios. Merci.